Azincourt, la chevalerie et les Armagnacs décapités. En août 1414, le roi d'Angleterre, Henri V, profitant de la confusion qui règne à Paris, demande à Charles VI de lui restituer le royaume de France tout entier, c'est-à-dire de devenir roi à sa place. Pourtant, Henri V n'a aucun droit sur le royaume de France. Certes, il descend des Plantagenets, mais il fait partie de la nouvelle dynastie des Lancastres qui s'est installée sur le trône d'Angleterre par la force. Des tentatives de conciliation échouent. En juillet 1415, les Anglais débarquent en Normandie. Henri V d'Angleterre est déterminé, il veut monter sur le trône de France. Le 19 août 1415, Harfleur tombe aux mains des Anglais qui pillent la ville et se chargent d'un lourd butin. En octobre, ils franchissent la Somme, puis se dirigent vers le nord, vers Calais, leur ville, où ils projettent de prendre du repos. Mais le 24 octobre 1415, leur marche est interrompue à Azincourt. Les Français les attendent de pied ferme. Ils ont réussi à rassembler une armée de 50 000 hommes aux ordres de Charles d'Orléans, du duc de Berry, du duc de Bourbon, du connétable de Clisson, du connétable d'Albret. Pas un seul bourguignon ne va participer à cette bataille. Jean sans peur, leur chef, a conclu un accord secret avec Henri V. Il reste neutre. Les Anglais, face aux 50 000 Français, ne sont qu'un peu plus de 10 000. Henri V hésite. Il n'a plus envie de combattre. Ses soldats sont atteints de dysenterie, beaucoup désertent. Il sait que la mer est mauvaise, s'il doit embarquer en catastrophe après la défaite qu'il devine proche. Afin de ne pas aggraver sa situation, il propose au connétable d'Albret d'abandonner ses prétentions à la couronne de France. Refus hautain, les Français, évidemment, sont sûrs de remporter la victoire. Il pleut à verse les 24 et 25 octobre 1415. Les chevaliers décident de rester à cheval toute la nuit. Les pages, de temps en temps, promènent les chevaux avec le cavalier en selle, de sorte que le terrain détrempé devient un champ de boue où s'enfoncent bêtes et gens. La lourde armure des chevaliers, leur cotte de maille, leur épée, le harnachement des chevaux, tout contribue à l'enlisement de cette fière et un peu bête armée, qui ne pense pas à agir autrement qu'en respectant un code de combat aux effets désastreux. La bataille s'engage le 25 octobre à midi. Ne voyant pas les Français attaquer, les Anglais se sont lancés à l'assaut de leur ligne en une sorte de charge désespérée, sûrs que c'est la seule qu'ils pourront mener. Les arbalétriers français répliquent, mais les chevaliers, les estimant inefficaces, les bousculent afin de prendre leur place. Ils descendent de cheval, tentent d'avancer vers l'ennemi, s'embourbent pendant que leurs chevaux, effrayés par les flèches anglaises, se ruent sur eux. Henri V n'en croit pas ses yeux. Tant de bêtises, de stupidité en si peu d'espace. C'est inespéré. Les lignes de chevaliers français sont tellement compactes qu'aucun d'eux ne peut se servir de ses bras pour manier la lance. C'est bientôt le sauf qui peut. Mais les chevaliers se sont encore davantage enfoncés dans la boue. Les archers anglais se saisissent alors d'épieux, de haches, les coutiliers arrivent avec leurs longs couteaux. Tous font un carnage épouvantable parmi les rangs français. L'arrière-garde des chevaliers s'enfuit. Henri V vit le plus beau jour de sa vie. Il a fait 1700 prisonniers. La bataille est gagnée. Mais, soudain, l'arrière-garde en fuite se ressaisit ou fait semblant. Le roi d'Angleterre décide alors d'exécuter ces 1700 prisonniers, ce qui est fait sur le champ par 200 archers. Ainsi est décapitée la fine fleur de la chevalerie française. Ainsi disparaissent les têtes de grandes familles appartenant tout au clan des Armagnacs, et cela sert parfaitement le projet du roi d'Angleterre qui veut favoriser les Bourguignons.
Charles d'Orléans, en regardant vers le pays de France. Parmi les quelques prisonniers épargnés, on trouve Charles d'Orléans. Le fils de Louis d'Orléans n'a que 21 ans lorsqu'il est emmené en Angleterre, à Douvres, en 1415. Il sera libéré en 1440 après avoir séjourné pendant 25 ans dans différentes prisons où il écrit de nombreux poèmes. Peut-être en avez-vous lu certains. Peut-être quelques vers seulement. Peut-être ceci. En regardant vers le pays de France, un jour m'avint à Dovres, sur la mer, qu'il me souvint de la douce plaisance que sous loi ou dit pays trouvait. Ou bien ceci. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Bonne d'Armagnac, morte en 1435, il se remarie avec Marie de Clèves. Son amitié pour le duc de Bourgogne, le rendant suspect aux yeux du roi Charles VII, il se retire au château de Blois, où il s'entoure de poètes, de jongleurs. Il organise des concours de poésie. Il y accueille, entre autres, un certain François Villon. En 1462, naît son fils, Louis, le futur Louis XII.
Après Azincourt, Jean sans peur tente par tous les moyens de reprendre Paris aux Armagnacs, décimés sur le champ de bataille. Pour atteindre cet objectif, il se rapproche un peu plus du roi d'Angleterre, Henri V. Il le rencontre le 6 octobre 1416 à Calais, l'assurant qu'il le considère comme le seul roi de France. Le royaume de France est en péril de mort. Jean sans peur et ses bourguignons ont mis le siège devant Paris. Les Armagnacs y font régner la terreur, augmentent les impôts, interdisent de se baigner dans la Seine, confisquent les armes. Mais dans la nuit du 28 au 29 mai 1418, un jeune homme, Perrin Leclerc, qui hait les Armagnacs, ouvre la porte de Saint-Germain-des-Prés aux Bourguignons, commandés par le seigneur de l'Isle-Adam. 800 hommes en armes entrent dans la ville et rejoignent des Parisiens révoltés. La vengeance des Bourguignons va commencer. Le 29 mai 1418, c'est le début du massacre des Armagnacs. Ils sont entassés nus au coin des rues, au milieu de la boue. Dans les jours suivants, les bouchers, alliés des Bourguignons, ressortent leurs longs couteaux et vont égorger dans les prisons les Armagnacs qui y ont été jetés. D'autres sont précipités du haut de tours sous lesquelles les Parisiens se sont assemblés avec des piques tendues. D'autres sont découpés, brûlés. Sur le cadavre du connétable d'Armagnac, Jean de Villiers de l'Isle-Adam trace la croix des Bourguignons avec la pointe de son épée. Le bourreau de l'époque, Capeluche, monté sur son cheval noir, conduit une bande d'écorcheurs qui égorge les femmes. Le comble de l'horreur est atteint lorsqu'il éventre des femmes enceintes. Arrêté et condamné à mort, il va préparer lui-même les instruments de son supplice, donner tous les conseils à son successeur pour que la hache lui tranche la tête du premier coup. Le 14 juillet de cette année 1418, les Parisiens, en liesse, délivrés de la dictature des Armagnacs, ouvrent leurs portes à Jean sans peur, qui rentre de Troyes, où il avait installé un gouvernement provisoire. Il est accompagné d'Isabeau de Bavière, qu'il avait pris sous sa protection. La liesse parisienne est de courte durée. Une terrible épidémie, de variole sans doute, fait plus de 50 000 morts dans la capitale. Pendant ce temps, la ville de Rouen est assiégée par les Anglais. Sans ravitaillement, les habitants en sont réduits à manger leurs chats, leurs chiens, les rats, les souris. Le 20 janvier 1419, Henri V d'Angleterre y fait son entrée. La Normandie est conquise. Le roi d'Angleterre cherche un interlocuteur pour signer la paix. Mais à qui s'adresser? À Jean sans peur qui tient Paris? À Isabeau de Bavière, la reine? À Charles VII qui n'a que 16 ans et réside dans le clan Armagnac chez son oncle le duc de Berry? Afin de ne pas se soumettre aux Anglais, Jean sans peur et Charles VII tentent de s'entendre. Mais le 10 septembre 1419, au cours d'une de leurs rencontres au milieu d'un pont qui franchit Lyonne à Montereau, la discussion s'envenime. Jean sans peur met la main à son épée, ou du moins c'est l'interprétation donnée pour le geste qu'il esquisse. Les gens de Charles VII se ruent alors sur lui au cri de « Tuez ! Tuez !» le crible de coups d'épée et lui fendent le crâne. C'en est fini de Jean sans peur. L'assassinat de Louis d'Orléans est vengé. mais la France est à terre.